Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Aujourd'hui, on parle densification urbaine, ça se passe à Lusignan. On vous donnera aussi quelques bons plans sortis et des recommandations musicales. Et on accueille tout de suite notre invité du jour pour une initiative qui a été soutenue par le Fonds Vert. Il s'agit de Jean-Louis Ledeux, qui est maire de Lusignan. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors, c'était l'un de ses premiers déplacements du préfet, du nouveau préfet. Serge Boulanger était venu à votre rencontre, c'était fin novembre, ça faisait à peu près 3 jours qu'il était là. Il s'était déplacé à Lusignan pour vous rencontrer, rencontrer votre équipe municipale et vous remettre symboliquement le petit panneau fond vert pour votre projet de réhabilitation d'une friche au centre de la commune, c'est ça? Où est situé est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce lieu et comment il s'inscrit dans la commune aujourd'hui?
Alors, c'est un lieu qui est juste à côté de la mairie, donc en plein centre-ville. Qui, par le passé, était le lieu où il y a eu des commerces une boulangerie. Avec le temps, le commerce a fermé. Les commerçants, coiffeurs, prestations de services qui étaient dans ces locaux-là sont partis. Reste juste à aujourd'hui un assureur et le boulanger. Donc, c'est des locaux qui sont à aujourd'hui totalement vides. Et il y a la particularité aussi d'avoir 5 logements dans ces bâtiments, dont 2 sont inoccupés et qu'il faudra rénover.
Et alors, concrètement, comment est fait ce bâtiment? Quelle surface? Dans quel état il est aujourd'hui?
Alors, c'est un bâtiment qui, en surface au sol, est d'un peu plus de 1000 m², qui est relativement vétuste puisque sa construction date des années 70. Avec une particularité, quand on regarde ce bâtiment, on trouve que c'est un cube, mais à l'intérieur, toute la charpente est une charpente métallique. Donc, on s'est appuyé sur la charpente métallique pour faire travailler les architectes qui vont nous proposer le projet définitif.
Et ça va arriver dans quelques jours, on va y venir. Alors d'abord, comment est née l'idée au sein de votre équipe municipale d'acquérir cette friche, puisque c'est de ça dont il est question?
Quand on a élaboré notre programme municipal, on avait travaillé sur un axe de travail qui était la bibliothèque. La bibliothèque est dans des bâtiments qui sont en plein cœur de centre-ville, dans des bâtiments assez vétustes, et il fallait en faire une rénovation. On a lancé une étude spot sur 3 mois avec l'Agence des territoires de la Vienne, qui nous a permis d'évaluer le potentiel qu'on avait entre les mains dans cette bibliothèque. Et la conclusion, surface au sol 95 m², qu'il fallait à peu près investir 850 000 euros pour la rénover. Notamment récupérer de la surface également en allant à l'étage, qui est institué aussi pour toutes les conditions de mettre un ascenseur, donc un chiffrage assez important. Un deuxième lieu avait été regardé, qui est en centre-ville, à côté des tours historiques. Et là aussi, l'enveloppe pour arriver à rénover ce lieu et avoir une surface là de 140 m² en 2 niveaux également, était de l'ordre du 1,3 million. Et ça nous a fait réfléchir et on a émis l'idée que notre bibliothèque, on allait l'intégrer dans cette friche commerciale qui était vide à aujourd'hui. Et on pouvait estimer avoir un peu plus de 300 m² au sol pour cette bibliothèque, avoir quelque chose d'accessible, de moderne. Mais il fallait une condition particulière, c'est devenir propriétaire du foncier de ce bâtiment. Donc fin 2020 et début 2021, on s'est attaqué à cette question d'être propriétaire de l'ensemble de ce foncier pour pouvoir lancer les opérations d'études et de réalisation future.
Et ce n'était pas une mince affaire, devenir propriétaire de ce foncier, parce qu'il y avait des propriétaires privés et parce que les coûts ont un peu explosé?
Alors, il y a 2 choses. C'est d'abord 2 propriétaires indépendants qui avaient l'ensemble du bâtiment. Et c'est aussi toujours particulier de dire que la mairie va racheter un bien privé. On a toujours l'impression qu'on l'achète trop cher. Et pour le vendeur, c'est jamais assez cher. Donc il a fallu... Alors nous, on n'a pas voulu rentrer dans cette confrontation-là. On a confié cette transaction à l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine. De plus, la commune de Lusignan en 2020 avait 33 ans d'endettement, donc n'avait pas des capacités financières pour se lancer dans un tel projet. Et à travers l'apport et la façon de travailler de l'établissement public foncier, nous on avait entre guillemets à débourser 10% pour en être, d'avoir l'usufruit. Et pendant 5 ans, la valeur du rachat est supportée par cet établissement. Donc on sait qu'on a une dette. Et entre deux, on a travaillé à remettre en place des finances de la commune tout à fait sereines. Et à aujourd'hui, on aura encore les bilans dans quelques jours, on est redevenu une commune tout à fait respectable au niveau de ses finances avec un endettement de moins de 4 ans.
Et alors, l'établissement public foncier acquiert en fait le bâtiment pour quel montant finalement ?
Alors ça s'est passé en deux opérations, puisqu'on avait demandé un quitus au conseil municipal pour avoir une enveloppe de transaction à hauteur de 500 000 euros pour faire la totalité de l'acquisition. Au final, ça s'est terminé à 650 000 avec les deux propriétaires, puisqu'il y avait le propriétaire de la boulangerie et le propriétaire des autres bâtiments. Donc le PNAF a supporté exactement 400 89 000 euros pour sa part, et on a divisé ce qu'on appelle nous dans le projet la barre commerciale. Elle a été rachetée directement par la commune à hauteur de 250 000 euros.
Alors, quel est le projet maintenant de réhabilitation de cette friche commerciale ? Donc, la bibliothèque, on a bien compris. Quelles sont les autres ambitions ?
Alors, les autres ambitions, c'était d'abord de garder le commerce qu'on avait en centre-ville à travers notre boulangerie qui est située là-haut, dans ces bâtiments. De garder également l'opérateur d'assurance qui, d'abord, tout de suite, dès le début du projet, nous a fait part de son envie de rester à Lusignan puisqu'ils sont bien ancrés à Lusignan. Donc ça faisait déjà deux points d'appui, et l'axe complémentaire, c'était la partie des logements qu'il fallait renouveler, donc faire du logement social au centre de Lusignan, et notamment certainement qu'on conservera un des appartements pour, entre guillemets, du secours d'urgence quand il se passe des problèmes sur la commune. Donc ça sera un atout supplémentaire, et une partie de commerce à revitaliser dans cet espace-là, donc on aura à peu près 150 mètres carrés de commerce refait.
L'idée, c'est ça aussi, c'est de dynamiser un petit peu ce centre-bourg.
Oui, ce centre-bourg, puisque Lusignan a subi une profonde, transformation. Moi, je suis arrivé à Lusignan en 86, il y avait encore quelques commerces en centre-bourg, mais depuis, la fin des années 2000, le commerce a quasiment totalement disparu. On a eu la construction à l'extérieur autour d'une surface commerciale, d'autres commerces qui sont arrivés, qui a d'ailleurs redynamisé le commerce à Lusignan. Maintenant, on a le reste du travail à faire revenir à Lusignan, à l'intérieur du centre-bourg, des commerces. Alors, on a déjà, depuis le début de la mandature, des commerces qui sont revenus. On a un petit commerce bio qui s'est installé, que l'on a réinstallé puisqu' ils n'étaient pas bien positionnés, et notamment, ils n'avaient pas trop de visu. Donc là, ils sont juste à côté de ce bâtiment-là. On a aussi, il nous reste une coiffeuse, il nous reste aussi une marchande qui fait de l'art qui est venue s'installer. On a un projet situé à 50 mètres de là avec l'arrivée d'une artisane qui va faire de la teinture et qui va faire un certain nombre de choses, donc qui va être opérationnel en 2026. Donc on est en train, peu à peu, de reconcentrer quelques éléments sur ce centre-bourg, autour aussi de la banque et de la poste qui a été remis là avec la maison des services.
Et justement, quels sont les services ou les commerces que vous espérez voir fleurir dans ce futur bâtiment ?
On espère avoir des services de proximité et également d'avoir une ou deux cellules réservées aux entreprises qui veulent venir, les petites entreprises qui veulent venir en centre-ville. Et on a une expérience particulière à Lusignan, puisque dans le mandat d'avant avait été rénovée la trésorerie. Dans la trésorerie, on a des accueils médicaux, notamment à travers le contrôle médical de la sécurité sociale qui est accueilli à cet endroit-là, des consultations de psychologues faites par le CHU, et on avait une partie où on a accueilli pendant plus de 4 ans une petite société qui est arrivée pour faire de la paye et de la gestion d'entreprise. Et ils étaient 3 au départ et aujourd'hui ils sont 7. Donc on a refait, on a rebâti un projet avec eux, on les a déménagés au cours de l'année dernière. Maintenant ils sont dans une maison qui était à la commune et dans laquelle ils sont 7 et ils pourront même aller jusqu'à une dizaine dans cette maison pour travailler et se développer. Et on a refait le travail de réimplanter des personnes aux endroits qui étaient libres. Et on fait ce travail, je dirais, constamment. Donc c'est parce qu'il y a, de la demande pour ceux qui démarrent. Donc ils n'ont pas besoin de grand espace. C'est 20-30 mètres carrés. Ils s'installent. Ils ont aussi des loyers qui sont modérés. Donc ça permet de comprimer les charges au démarrage d'une société. Et puis d'avancer pas à pas. On les accompagne. Alors on ne va pas se dire qu'on est des... un centre d'accueil de start-up ou de petites, mais l'accueil que l'on préconise permet à des sociétés de démarrer. Il y a du succès, il y a des échecs aussi, mais globalement, c'est positif.
Et comment ce dispositif s'inscrit, enfin, comment ça s'inscrit dans le dispositif Petite Ville de demain ? Peut-être on pourrait expliquer aux auditeurs et auditrices ce que c'est et comment Lusignan s'inscrit là-dedans ?
Alors, moi, depuis que je suis élu en 2020, j'ai toujours eu des portes qui se sont ouvertes devant nous. Donc, alors, la première porte qui s'est ouverte, elle n'était pas très désagréable, c'est qu'on avait de gros problèmes financiers. Donc, il a fallu expliquer comment on allait s'en sortir et comment on allait construire de ça. Et les rapports que j'ai eus avec les services de l'État ont été tout à fait cordiaux. Ils ont entendu, ils ont pris notre message et ils nous ont laissé le temps de travailler pour pouvoir redresser la situation. Et à travers ces échanges, s'est mis en place le dispositif Petite Ville de Demain. Et je pense que c'est les rencontres que j'avais eues avec le secrétaire général de la préfecture à l'époque qui ont permis de nouer des liens et d'être, entre guillemets, repérés comme étant la cible, je dirais, d'anciens chefs-lieux de canton, devant avoir un coup de main pour essayer de se remettre en selle et puis refaire vivre Lusignan d'une façon différente. Donc on a eu la chance d'être retenu dans ce dispositif. Et ce dispositif était aussi un dispositif où il fallait trouver un binôme pour être associé à ce dispositif. Et ça a été la ville de Chauffony. Je connais bien M. Herbert, son maire. Et bon, on a l'habitude de travailler ensemble. Et ça a permis de tout de suite avancer rapidement dans ce dispositif. Et on se partage un chef de projet qui est porté par la communauté urbaine. Et ce chef de projet travaille une partie de la semaine sur Chauvigny, une partie de la semaine sur Lusignan, et il a le support des services techniques de la communauté urbaine.
On est avec Jean-Louis Ledemaire de Lusignan. On parle de comment on redynamise un petit centre-bourg et donc de la réhabilitation d'une friche. On va rentrer un petit peu dans les détails du projet. Ce sera juste après Maya Kamati, un nouvel extrait de l'album Sauvage qui a été dévoilé. Donc, d'ailleurs, le clip Sur mes épaules que vous pouvez aller voir a été tourné durant la tournée indienne de la chanteuse.
Chaque jour un peu plus lourd, chaque jour un peu plus fort. Qui sont donc tous ces gens qui me veulent du tort? Tu ne sais pas ce qui se joue, à quel point les gens jaloux. Tu ne sais pas ce qui balance, entre dans la danse. Ce qui vient fouler ma peau, ce qui sent d'autres mots, se pose à tour de rôle sur mes épaules. J'ai des bouts qui se fissurent, des trous béants dans les murs. Comment faire taire tous ces gens sans aucune blessure?
Dessine nos épaules, dessine nos épaules, dessine nos épaules, dessine nos épaules. Une belle journée ensoleillée.
Il est étoile en plus.
Ah ouais.
Aujourd'hui, on accueille Jean-Louis Ledeux qui est maire de Lusignan et qui est là pour nous parler de la réhabilitation d'une friche commerciale en plein centre-bourg de Lusignan. Alors, vous avez bénéficié de la subvention du Fonds vert. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette subvention et en quoi ça va vraiment aider le projet ?
Donc, ce projet a est aujourd'hui chiffré aux alentours de 3,2 millions. Donc pour une commune, c'est difficilement supportable. Donc d'abord, on était sur une prévision aux alentours de 2,1 millions, 2,4 millions au démarrage, dans une estimation qu'on avait faite. Et on s'était dit que le projet, on allait le faire sur 2 ans. Au vu des chiffres que l'on a actuellement, on se positionne sur 3 années pour arriver à le réaliser, je dirais, en cascade, morceau par morceau, et on a commencé à travailler l'engineering qu'on a à travers notre chef de projet, à travailler avec les services de l'État pour savoir comment on pouvait aller chercher, je dirais, au maximum les subventions, et notamment en s'inscrivant dans ce dispositif fonds vert qui est, je dirais, sous l'égide de l'État.
Donc il y a dans la Vienne 188 projets qui ont reçu cette subvention fonds vert donc 2023-2024 et donc près de 800 000 euros quand même pour votre projet.
Tout à fait. Donc 782 500 je crois qui sont ciblés sur le fonds d'hiver et on a reçu pour la première partie notamment pour l'achat du bloc commercial une aide de DETR de l'État à hauteur de 105 200 euros si ma mémoire est bonne.
Fonds vert parce que ce qu'ils estiment aussi, c'est que ça limite l'étalement urbain qui est vraiment décrié aujourd'hui.
Oui, ça, effectivement, mais là on n'est pas tout à fait sur ce principe-là. C'est surtout ramener du monde en centre-ville, ramener du commerce. Et puis également à travers le projet de bibliothèque, c'est un projet qui est central puisqu'on sait bien que l'éducation passe par là. C'est une chose qui nous tient à cœur. Et puis aujourd'hui, on a une bibliothèque qui marche avec 2 agents municipaux, donc qui fonctionnent correctement, et aussi avec l'aide de beaucoup de bénévoles. Et puis c'est un outil qu'on veut absolument maintenir et on pourra faire beaucoup plus et mieux, notamment les relations avec le travail, avec les écoles, de travailler également avec le foyer logement, de pouvoir faire des rencontres autour de la lecture et de ces projets-là. Donc c'est quelque chose qui est important et qui marque aussi, puisque quand on passe par la bibliothèque, eh ben, on vient en centre-ville et on fait marcher les commerces qui sont autour. Donc c'est une unité complète qu'on veut mettre en place.
Et donc le reste est financé par les finances de la commune, par un emprunt tout simplement ?
Alors, pas tout à fait comme ça. C'est que je pense qu'on va avoir 14 dispositifs qui ont été mis bout à bout. Donc, on a les dispositifs de l'État à travers 3 types de subventions, le fonds vert, la DETR et le DECIL. Les dispositifs de la région dans lesquels on se met dans 2 dispositifs sur lesquels on peut aller chercher 300 ou 400 000 euros. Les dispositifs du département, notamment au travers de la rénovation du logement sur lequel on ira chercher une subvention aux alentours de 150 000 euros. Les dispositifs de la communauté urbaine sur une enveloppe de 40 000 euros et d'autres dispositifs qui s'appliquent, dont j'ai pas les noms, mais voilà, on va aller chercher des compléments. Donc nous, ce qu'on prévoit, c'est d'avoir un reste à charge de la commune aux alentours de 700 000 euros sur 3 ans, donc ce qui sont des enveloppes qui sont tout à fait supportables par rapport à la commune et la politique qu'on mène au niveau de sa gestion.
Et puis il y aura aussi des loyers qui seront versés par...
Alors bien sûr, il y aura les loyers. Actuellement, le rachat de la première partie que l'on a fait, on a des loyers donc, de la boulangerie, des loyers de la surface de l'assurance qui est dans nos bâtiments. Et aujourd'hui, ces loyers sont plus forts que le remboursement de l'emprunt qu'on a contracté pour l'instant. Donc on a fait un projet en essayant de ne surtout pas dégrader les finances de la commune et de pouvoir aussi proposer des choses intéressantes à la population. Notamment cet aspect de culture et de bibliothèque.
Et donc l'actualité là, de ce mois de janvier sur le projet, c'est que vous êtes en train de sélectionner les architectes.
Oui, tout à fait. Alors c'est la dernière étape, puisqu'on a même été surpris, c'est qu'on a 44 architectes qui ont répondu à l'appel d'offres qu'on a lancé. Alors, on est suivi en maîtrise d'ouvrage toujours par l'Agence des territoires de la Vienne. 44 qui ont proposé de concourir pour le projet final. Donc, on a pris, au mois de novembre, on a choisi 5 bureaux d'architectes qui nous présentent leur projet le 31 janvier pour faire le choix.
C'est bientôt, ça arrive. J'imagine que ça devient concret, ça doit être assez excitant.
Oui, parce que là, on va rentrer, entre guillemets, on a travaillé sur une phase papier, on a travaillé à mettre des chiffres en équation, on a travaillé à résoudre chacun des problèmes quand ils se sont présentés. Et là, on va avoir enfin du concret, de faire le choix de ce qu'on va mettre au centre de la commune. Et puis après, on va partir dans la phase de consultation des entreprises, d'appel d'offres et puis de démarrage du projet qui aura lieu soit fin juin ou tout début septembre pour la première tranche de 2025. Elle sera suivie de la tranche 2026 et de la finition en 2027 et de l'inauguration de cette nouvelle architecture en centre-ville de Lusignan.
Donc l'objectif, c'est ça, fin 2027, inauguration ?
Oui.
Dans le meilleur des...
Je ne peux pas vous donner encore la date, mais on est sur ce calendrier-là. Donc on espère ouvrir ça à la rentrée de septembre.
Et alors, est-ce que les habitants vont pouvoir aussi s'emparer de ce projet, peut-être donner leur avis ou s'impliquer dans cette réhabilitation ?
Alors, c'est toujours compliqué, puisque nous, on est dans des voies où on a donné le maximum de préconisations par rapport aux éléments qu'on avait de notre population. On a donné des pistes sur lesquelles on voulait travailler, notamment sur cette architecture métallique de la couverture. Et on a proposé quelques esquisses à un moment donné et on nous a dit qu'on était dans le bon sens. Donc on a laissé les choses comme ça. Après, donner le choix à la population, s'il y en a un qui veut du vert, du bleu, du rouge, c'est des fois difficile. Donc on laisse faire les architectes, les propositions qu'ils vont faire. Et puis on est autour de la table au conseil municipal pour faire ce travail-là aussi, quoi.
Est-ce que vous espérez aussi peut-être booster un peu l'attractivité de Lusignan avec un projet comme celui-ci ?
Bien sûr. D'abord, Lusignan, on travaille sur d'autres projets. On va parler de petite cité de caractère. On est aussi dans ce dispositif-là. Et on a eu, le mois de décembre et le mois de novembre a été un bon mois pour Lusignan. On a eu la labellisation petite cité de caractère. Et on travaille...
Ça, c'est plutôt le côté tourisme, patrimoine.
Tourisme et patrimoine. Donc, on associe des nouveaux bâtiments pour redonner vie au centre-ville. Et on a en face de ce nouveau bâtiment l'entrée dans la cité historique de Lusignan, la partie médiévale. Et on essaye de combiner ces deux choses-là pour que notre territoire soit attractif. Et on a la chance aussi d'avoir eu le parcours Terra Nova de la région. Non, c'est pas Terra Nova, c'est un lot.
Je vais y arriver aussi, mais c'est pas grave, ça va revenir.
Ça va donner beaucoup de... Tout le monde a le nom, il n'y a que moi qui n'ai pas le nom. Donc,
c'est ces parcours qui permettent de découvrir le territoire avec un GPS.
Voilà, c'est ça.
Donc, Terra Aventura.
Terra Aventura, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est à peu près plus de 2500 passages sur Lusignan et c'est une activité en famille. Donc voilà. Donc on va disposer, il y a d'autres dispositifs qui vont arriver sur le territoire de Lusignan pour faire visiter, je dirais, l'historique. Et on a commandé un programme qui va être livré début juillet sur l'histoire de Lusignan et la visite, je dirais, interactive de Lusignan. Et on aura pour le millénaire de l'église de Lusignan le 6 avril la présentation de la visite de l'église à travers ce même type de programme interactif.
Merci beaucoup Jean-Louis Ledeux, donc maire de Lusignan, d'être venu nous parler de cette réhabilitation donc de la friche commerciale en plein centre-bourg. Et puis on espère donc l'ouverture d'ici 2027. Merci bien.
Merci beaucoup à vous.
Demain dans Séquence Midi, on parlera éclairage public. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Et il est présenté par Rachel.
Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, dans le cadre des Journées de la musique de chambre, organisées par le Conservatoire de Poitiers et le pôle Alianor, les élèves et les étudiants vont à la rencontre du public. Cette 18e édition propose 13 concerts gratuits, dont un réservé aux scolaires. Elle marque l'aboutissement d'un semestre de travail autour d'un répertoire qui s'étend du 15e siècle à aujourd'hui. Convivialité, échange et partage avec le public également au programme. Ça se déroule au musée Sainte-Croix toute la journée. Pour votre soirée, je vous propose Privé SVP, un concert sensible théâtralisé par une comédienne et trois musiciennes. Douceur d'un piano, voix dispersant les madeleines du passé, les notes dans les journaux intimes, Clotilde Esmé incarne Maud Lubeck à travers les âges. Le concert se déroule au Centre socio-culturel de la Blaiserie à 20h30. Maintenant, direction le Bibliocafé où se tient à 18h Ramène ton book. C'est l'occasion pour les fans de littérature de venir discuter de vos dernières lectures coup de cœur ou de vos dernières déceptions. C'est tous les 3e mardis du mois au Bibliocafé et c'est sans réservation. Et enfin, sortons de Poitiers direction Champagné-Saint-Hilaire où a lieu à la bibliothèque l'exposition de dessins Les gens sont beaux. Elle est réalisée par Hippolyte Grelier, un enfant de 9 ans, trop tôt marqué par la vie et pour qui l'art est un moyen de reconstruction. L'exposition est visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque jusqu'au 1er mars.
Merci beaucoup Rachel, on te retrouve dès demain à 8h dans Espace Matin. Sur Pulsar ce soir à 18h, c'est Alasso présenté par La Fève qui reçoit la Banque Alimentaire. À 19h, Slamatouva qui reçoit Salah Eddin Ben Brahim qui viendra parler de la soirée du 25 janvier au Toit du Monde avec concert et scène ouverte animée par Yomagel et Farfouyou. À 20h, c'est Pétale de Sakura. À 21h, Culture Dub avec toutes les nouveautés dub, reggae et vos places pour le Winter Dub Camp à Nantes. Et à 23h, c'est Novorama. Merci Yann pour la réalisation technique. On se quitte avec Mahom qui a marqué l'univers dub électro des années 2010 avec des projets comme Skankin Cat ou Feline. Et maintenant, il est de retour avec un nouvel album intitulé Rainbow Machine. Voici un extrait Crazy. Bon après-midi en musique. À demain. Three, four.